L'amour des nouveaux noms. Moi particulièrement, j'ai un problème avec les nouveaux noms. Comme il a dit, on ne dit pas que c'est interdit. Mais j'ai un problème avec les nouveaux noms. C'est pour ça que généralement, ceux qui m'envoient souvent les messages, Alhamdulillah, chef, j'ai un nouveau enfant et je voudrais que tu me proposes des noms. Généralement, je leur propose Abdallah, Abdurrahman, Muhammad, ainsi de suite. Et généralement, ils sont souvent choqués. Parce qu'ils s'attendent au nouveau nom, ce qu'on appelle les nouveaux noms. Le problème que j'ai avec le nouveau nom, c'est qu'il y a eu des gens qui ont vu leur nom être changé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que il y a des noms qui ne sont pas bons et que le nom a une influence sur la personne qui porte le nom. Ibn al-Qayyim a un livre. Ibn al-Qayyim a un livre sur les sentences relatives au nouveau-né. Tufat al-Mawlud, au Mawlud, fi ahkam al-Mawlud. Dans ce livre, il a démontré que le nom a une influence sur celui qui porte ce nom. Maintenant, s'il est établi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a entendu des noms et que par la suite, il a changé ses noms. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les nouveaux noms. Qui vous dit que ces noms ne font pas partie des noms que si le prophète avait entendu, il les aurait changés? Vous comprenez le problème? Qui te dit que ces nouveaux noms que tu donnes à l'enfant, si le prophète l'avait entendu, il n'allait pas le changer? Or, avec les anciens noms, tu n'as pas ce problème. Les anciens noms, c'est un des noms qui ont été agréés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'en donnant un nouveau nom à l'enfant, il faut tenir compte de cette situation et y méditer. C'est rassurer que ce n'est pas un nom qui, du point de vue islamique, est un mauvais nom. Constitue un problème. En plus, il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن لأنهم يفزمون أفراد الله سبحانه وتعالى صن عبد الله و عبد الرحمن. Certaines personnes ont plusieurs enfants, parfois plus de 10, 11, et n'ont donné à ces enfants aucun nom parmi les hommes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois n'ont donné à aucun de ses enfants le nom de l'un des prophètes. Que des nouveaux noms. Parfois même le nom des mécréants. Cristiano. Ronaldo. Hadi Moussiba, ya Ikhwa. Hadi Moussiba. Ça, c'est une vraie calamité. Et c'est comme ça que les musulmans finissent par perdre leur identité. Et c'est un problème. Nous devons de nous cramponner, de nous attacher aux anciennes choses relatives à notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Juste avant de nous arrêter pour l'accomplissement de la prière, je suis en train de parler du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a évoqué les conséquences désastreuses du shirk. Nous avons évoqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat amaluhum wa fin narihum khalidoun. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'attendait pas aux associateurs de prendre le soin des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Comment est-ce qu'on prend soin des maisons d'Allah? Par le biais des accomplissements, de l'accomplissement des actes d'adoration. Il dit qu'il ne leur appartient pas de le faire. Shahidina ala anfusihim bil kufr. Tant qu'ils attestent encore eux-mêmes de la mécréance, tant qu'ils attestent encore en eux, non, de la mécréance. Bye. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en réalité, le shirk c'est la mécréance. Et que le shirk est une forme de mécréance. Maintenant, est-ce que toute association est mécréante? Répondez. Est-ce que toute association est mécréante? Hein? Est-ce que toute association est mécréante? Non? Ah, c'est chaud. C'est vrai, c'est rapide, hein? Si vous ne dites pas non, c'est oui. Je n'ai même plus demandé qui dit le contraire. Si vous n'avez pas dit non, c'est que vous êtes un partisan du oui. Ici, il n'y a pas de tabaco. Parmi les histoires qui sont souvent racontées pour détendre. Non? Pour détendre, comment est-ce qu'on dit? L'atmosphère dans les assises de science. C'est des histoires de certains parmi les anciens qui avaient posé certains actes amusants. Parmi ces histoires, c'est qu'il y avait un étudiant qui était intelligent et qui se faisait passer pour le fils d'un savant. Un jour, alors que son père en réalité n'était pas un savant, un jour ses camarades ont décidé d'aller rendre visite à son père. Et à l'époque, quand les étudiants, même de nos jours, quand les étudiants se retrouvaient devant un savant, chacun avant d'aller prépare sa question. Quand ils se sont retrouvés devant le père, le gars a compris qu'il allait être dévoilé. Mais comme généralement dans les questions de fiqh, il y a beaucoup de divergences, et que les personnes intelligentes peuvent faire la synthèse des divergents, il a dit à son père que bon, quelle que soit la question qui te sera posée, dis qu'il y a dans la question deux avis et que les détails vous l'aurez de mon fils. Donc alors quand on posait la question, le père disait المسألة فيها قولان والتفصيل عند الإبن. Il y a sur cette question deux avis. Et parfois, quand il y avait plusieurs avis, le fils, comme il était intelligent, disait, en réalité, il y a plusieurs avis, mais cet avis peut être résumé en deux grandes positions. Et chaque fois, il réussissait. Et les gars croyaient qu'ils avaient à force d'un grand savant qui avait préparé son fils. Sauf qu'il y a eu quelqu'un qui a eu la présence d'esprit et a douté du Père et lui a posé la question de savoir « Abillah Hishab Kun » قال المثل فيها قولات والتفصيل إن الإبل أنا posé la question de savoir est-ce qu'il y a un doute sur l'existence d'Allah. Il a dit si cette question il y a deux avis et les détails vous les redivisent. Quand les gens se sont tournés vers le fils, il avait déposé les mains sur la tête. L'un film là, parce que si cette question, il n'y a aucune divergence. Et la divergence ne peut pas exister si c'est déjà des questions. Donc faites attention quand on pose la question et que les gens ne disent rien. Il y a certaines questions où, quand ce n'est pas oui, c'est non. Il n'y a pas deux avis. Barakallahu fikum. C'était pour détendre la notaire. Revenons à notre coup. Est-ce que toute association est mécréante? Non? Hey, je vais prendre quelqu'un qui a dit là. Cite-moi une forme d'association qui ne relève pas de la mécréance. Le shirk. Le petit shirk. Sahih, le petit shirk ne fait pas partie de l'association. Ça veut dire qu'il a rappelé quelque chose d'important. On fait allusion ici à la grande association. Est-ce que toute grande association, c'était bien, c'est intelligent ce qu'il a dit. Non. Là, ma vie moshkila. Kofur duna kofur. Fouwa shirkunduna shirk. الشرك دون الشرك يدخل تحت الكفر دون الكفر. طيب. Donc est-ce qu'il y a une grande association? Est-ce que toute grande association relève de la mécréance?
Non.
Non? Barakallahu fik. Non. Toute grande association relève de la mécréance. Est-ce que tout acte de mécréance est un acte d'association? Là. Lakin اختلف فيها العلماء في هذه المسألة اختلف فيها العلماء certains savants disent que l'association c'est la maîtrise et la maîtrise c'est l'association et qu'on ne peut pas dissocier les deux. والذي يظهر والله أعلم c'est que les deux sont dissociables parce que c'est pas toutes les formes de grande d'association, c'est pas toutes les formes de maîtrise qui relèvent de l'association. Par exemple, tenir des propos insultants, malséants à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala relève de la mécréance et ce n'est pas le shirk. Donc, toute grande association relève de la mécréance. Mais tout acte de mécréance ne relève pas de l'association. Oui. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'appartient pas aux mushrikis, les associateurs, d'entretenir les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des actes d'adoration. Tant qu'ils attestent encore de leur mécréance, c'est-à-dire tant qu'ils sont encore dans l'association, oulaïka habitat amaluhum. Ceux-là sont ceux dont les œuvres sont vaines. وَفِنَّارِهُمْ خَالِدُونَ. Et ils demeureront dans le feu de l'enfer. Quand Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a attiré l'attention sur les conséquences désastreuses du shirk, il a dit, et c'est ça le rapport avec notre cours, parce qu'on est en train de parler sur la partie وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْعًا. Adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donne aucun associé. Écoutez maintenant l'importance de la compréhension de cette partie du hadith. Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dit dans Qawaid al-Arba, fa idha arafta anna ash-shirka idha khalaqa al-ibada. Si tu comprends, si tu as donc compris que le shirk, lorsqu'il pénètre les œuvres, les rend vaines. Wa ahbata al-amal, yani idha khalaqa al-ibada afsadaha. Lorsque le shirk pénètre les œuvres, il les détruit. Et les rend vaines. Wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Et que le tueur du shirk, à partir du moment où il a commis le shirk, et meurt dans cette situation, Naam devient un habitant parmi les habitants et les éternels de l'enfer. Quand tu as compris ceci, ça veut dire quoi? Quand le shirk arafta anna ahamma ma alayka ma'arifat al-alik. Alors, tu comprendras que la chose la plus importante, c'est même que tu comprends cette réalité. Ça veut dire que quoi? Connaître la tawhid est important. Mais il y a plus important que connaître la tawhid. Je ne sais pas si vous avez compris. Connaître la tawhid est important. C'est même le but de la création. Mais il y a quelque chose qui est plus important que connaître la tawhid. C'est préserver la tawhid après l'avoir connu, après l'avoir obtenu, cela préservé. Pourquoi? Parce que si on connaît la tawhid, concrétiser la tawhid et tomber dans le shirk, est-ce que notre connaissance de la tawhid nous a aidé? Jusqu'à ce que cette connaissance et cette concrétisation du tawhid soit préservée jusqu'à la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on meure dans la tawhid. Et la seule façon de mourir dans la tawhid, c'est de connaître le shirk et de se mettre à l'abri du shirk. C'est pour ça que le shirk dit arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik. Si tu as compris, tu comprends donc que la chose la plus importante, c'est que tu comprennes ce que c'est que le shirk et que tu le dis. ثم قال لعل الله أن يخلفك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Il se peut qu'à travers la connaissance et la compréhension de cette chose importante, qui est la connaissance du shirk, parce que on ne peut éviter que ce qu'on connaît. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai connu le mal pas pour faire le mal, mais pour m'en préserver. Car celui qui ne connaît pas le mal finit toujours par tomber dans le mal. Celui qui ne connaît pas le mal finit toujours par tomber dans le mal. Celui qui ne connaît pas le shirk finit toujours par tomber dans le shirk. Donc, à travers la compréhension de cette chose importante qui est la connaissance du shirk, il se peut qu'on soit épargné du shirk. Ensuite, le shirk a dit وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدِ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Donc, on ne peut réellement comprendre le shirk, son essence, qu'à travers quatre fondements cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Donc, pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, dans ta'budu Allah, tu dois maîtriser salatat al-usul. Voilà que je suis tu dois connaître les quatre fondements. Et c'est pour ça que les savants yudandinouna houla hadi il kutub. C'est pour ça que les savants tournent autour de ces livres. Tous les temps, ils enseignent autour de salat, la kawaïd de l'arba. Les ignorants n'ont jamais compris pourquoi. Vous avez maintenant compris? Donc ne soyez pas surpris que la prochaine fois qu'on revient ici, que ce soit encore pour enseigner autour de salat. Que la prochaine fois qu'on revient ici, que ce soit pour enseigner Kawaido al-Arba. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de sa prophétie jusqu'à la fin de sa prophétie, a enseigné ces deux choses. Il a enseigné comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voir le culte exclusivement. Et il a mis en garde contre le shirk. Donc, pour comprendre ce que c'est que le shirk, on doit passer par quatre fondements. Al-Qaïda Tul-Oula, qui mémorise, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Ça c'est le premier fondement qui te permettra de comprendre ce que c'est que le shirk. C'est que les mécréants qui ont été combattus par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient, attestaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, le subsistant, al-muhyi al-mumit, celui qui accorde la vie et la mort, al-mudabbir li jami' al-umur. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui gère toutes les créations. Celui qui gère toutes les créations. Et cette connaissance n'avait pas fait de musulmans. Quand tu comprends ça, ça veut dire que si tu as cette conception, ce n'est pas ça qui fait de toi un musulman. Et ce n'est pas ça qui te met à l'abri du shirk. Combien parmi les musulmans pensez que la tawhid, c'est ce que nous venons d'expliquer. Tawhid al-Rububiyya. La grande majorité de ceux qui se revendiquent être des musulmans attestent de la seigneurie d'Allah et reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensent que comme ils reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils adorent les tombes, ils ne sont pas des associateurs. Alors que ceux qui ont été combattus par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la seigneurie. Allah ta'ala qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amman yamliku as-sama'a wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna yaquluna Allah qul afala tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, interrogez-le, qui est celui qui vous accorde votre subsistance depuis les cieux et puis la terre? Qui est celui qui détient lui et la vue? Qui est celui qui fait sortir le vivant d'un être mort et le mort d'un être vivant? Comment il appelle ton âme? Qui est celui qui gère? Qui gère le monde? Parce qu'il y a pour Allah, ils vont te répondre. Allah a déjà répondu. Ils vont te répondre clairement, c'est Allah. Pourtant, ils sont considérés comme étant des mécréants. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que le shirk. Et ce qui fait de l'être un mouahid. Ce n'est pas tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya ne transforme pas un acte qui relève de l'association en bonne œuvre. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute les soufis, que la tawhid al-Rububiyya transforme le shirk en tawhid. Parce qu'ils disent que comment vous pouvez nous traiter de mouchinkoun, d'associateur, parce qu'on a adoré les morts, alors que nous on dit la ilaha illallah. Donc, ce premier fondement nous permet de comprendre le shirk. Parce que ça nous permet de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la tawhid de Rububiyya qui annule le shirk. Ce n'est pas la tawhid de Rububiyya qui annule le shirk. Ou alors qui fait de l'être un mouahid. Non, c'est pas le terme. Ce n'est pas la tawhid de Rububiyya qui fait du croyant un croyant. Au sens de la charia. Ça, c'est la première règle. Et ce n'est pas ça qui met à l'abri du shirk. Parce que les mouchriquines à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé dans le Coran, qui ont été combattus par le prophète, reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas ça la source du problème entre les envoyés et leur peuple. C'était pas un problème au niveau de la reconnaissance de la seigneurie d'Allah. Est-ce qu'on a compris? طيب. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. C'est que ces associateurs qui se rapprochaient d'Allah, qui se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des actes d'association, écoutez bien, ils prétendaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah et ils prétendaient qu'ils ne l'ont fait que pour se rapprocher d'Allah, pour que ces divinités les rapprochent d'Allah. Et pour qu'ils puissent bénéficier de l'intercession de ces divinités auprès d'Allah. Vous avez compris ce pourquoi ils ont adoré ces divinités. فدليل القربة قوله تعالى. La preuve qu'ils adoraient les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah pour que ces divinités les rapprochent d'Allah. Écoutez bien. Pour que ces divinités les rapprochent d'Allah, vous avez conçu leur intention. C'est pour que ces divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah les rapprochent d'Allah. Ça veut dire qu'en réalité, pour eux, ils prétendaient adorer Allah. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire qu'en réalité, pour eux, ils prétendaient adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Ceux qui avaient pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'ils prétendaient être des bien-aimés d'Allah et qu'ils adoraient, à qui ils vouaient certains actes d'adoration. مَا نَعْبُدُهُمْ Ils disent, écoutez bien, مَا نَعْبُدُهُمْ Ils disaient que nous ne les adorons pas. إِلَّا لِيُقَرِبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Si ce n'est que nous voulons qu'ils nous rapprochent d'Allah. Méditez bien sur la différence entre les anciens associateurs et les nouveaux associateurs. Ils reconnaissaient que ce qu'ils font là, c'est l'adoration. Que invoquer le mot, c'est l'adoration. Eux, ils ont dit, Manabuduhum. Donc ils ont reconnu que c'est l'adoration. Mais seulement ils prétendent qu'ils veulent passer par cette adoration pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'au fond, est-ce que leur intention était mauvaise? Ils avaient une bonne intention. Mais est-ce que la bonne intention en elle-même est suffisante? La bonne intention n'est pas suffisante jusqu'à ce qu'elle s'accorde avec la charia. C'est pour ça qu'on doit passer par le suivisme.
Taïf. Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant Inna Allah yahkum baynahum fima hum fihi yahtalifun.
C'est que Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux par rapport à ce sur quoi ils divergent.
Parce que les associateurs étaient même divergents dans ces divinités qu'ils prenaient en dehors d'Allah et qu'ils prétendaient adorer pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Parce qu'il faut bien comprendre le verset. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux? Parce qu'à la base, ils n'adoraient même pas les mêmes divinités. Ce qui fait que même comme l'association à la base est une chose répugnante, d'autres figures d'association sont plus répugnantes que d'autres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux. Et jugera également entre les muwahidoun, avec qui ils étaient divergents. D'ailleurs, dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit,
afin que le verset ne soit pas mal interprété,
et qu'on dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que khalas, le jugement l'appartient. Laissez les gens faire le shirk. Non, Allah a dit, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Pour vous dire que le jugement là, ça ne veut pas dire qu'ils iront au paradis. Ça ne veut pas dire que le jugement qu'Allah fera entre eux, ça n'ouvre aucune porte d'accès au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu en disant que certes Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas vers le paradis celui qui est menteur et mécréant. Où est le mensonge? Où est la mécréance? Ya akhi, les gars disent que ma na'abuduhum illa li yukaribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons si ce n'est pour autre chose que le fait qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc ils ont reconnu qu'ils adorent ces choses-là en dehors d'Allah. Mais ils prétendent que l'association les rapproche d'Allah. Alors que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi, c'est que l'association éloigne de la miséricorde d'Allah. Et qu'on ne peut pas accéder à la miséricorde d'Allah par le biais de l'association. Ouais, al-kadhib. Donc ce sont des menteurs. On ne peut pas faire comme Rawdatul Uqala, l'imam. Non? Là. Qui est l'auteur du livre Rawdatul Uqala? Non? وانا مثلك عارف لكن نسيت ما ينفع نسيت الان الناس ينتبهون طيب سبحان الله dans ce livre le jardin des dieux d'intelligence l'auteur a rapporté une parole en disant il n'y a pas plus étonnante et plus amusante qu'une personne qui appuie au paradis en semant les graines de l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus étonnant que cette personne? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sème le maïs et va s'apprêter pour venir récolter les arachides? Si une personne se comporte de cette manière, que dira les hommes de lui? Il est fou. Yahri, regardez ce que ceux-ci disent. Ils adorent, ils acceptent qu'ils adorent un autre en dehors d'Allah. Ce qui est une cause parmi les causes d'accès à l'enfer. D'intégration d'accès au paradis. Et ils disent, ils prétendent qu'ils le font pour se rapprocher d'Allah.
quelque chose et son contraire. Il sème les causes de l'enfer et aspire au paradis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne guide pas les menteurs. Ce sont les menteurs et ce sont les mécréants. Parce que l'association est une forme parmi les formes de la mécréance. Donc ce sont les mécréants. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah yahkumu baynahum fi ma hum fihi yakhtalifun », ça n'ouvre pas la porte d'accès au paradis. Au menteur mécréant. On a compris le verset. Ça y est. Donc, ces associateurs qui adoraient ces divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala prétendaient qu'ils ne les adorent que pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leurs bonnes intentions, n'a pas transformé leurs actes d'association en bonne œuvre. C'est pour ça que le prophète Mohammed, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention sur ce point. Dans un verset en disant قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا dit, ne vais-je pas vous indiquer qui sont les perdants dans leurs œuvres? Ils ont des amal, des œuvres. Qui sont donc ces perdants dans leurs œuvres? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ, ce sont ceux qui se sont égarés sur la voie. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, tout en pensant qu'ils font le bien. Subhanallah, ils ont fait des œuvres. Mais la réalité, c'est qu'ils sont des égarés. Mais ils ne se sont pas égarés parce qu'ils ont une mauvaise intention. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas pardonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont choisi l'égarement. Malgré le fait qu'ils ont une bonne intention. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la porte de l'égarement à travers l'explication des expressions qu'il a, ou alors à travers les connotations qu'il a données aux expressions qu'il a utilisées. Je ne sais pas si vous avez compris. Allah a fermé la voie de l'égarement à ceux qui ont la bonne intention et comprennent les expressions utilisées dans les textes de la révélation. Donc, c'est-à-dire, donne à ces textes la connotation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Ça veut dire que quoi? Dans le Coran, la connotation que le shirk prend, c'est le fait d'adorer un autre avec Allah. Quelle que soit la raison pour laquelle tu le fais, c'est le shirk, même si tu le fais avec l'intention de te rapprocher d'Allah. Vous avez bien compris maintenant? Donc, ceux qui adorent les morts avec l'intention de rechercher l'intercession de ces morts auprès d'Allah, avec l'intention que ces morts les rapprochent d'Allah, est-ce qu'avoir cette intention, c'est une mauvaise intention? Mais est-ce que cette intention même en soi-même s'accorde avec l'intention enseignée par Allah? Donc, quand on choisit d'interpréter les textes à sa manière, de ne pas suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, on a choisi de s'exposer à l'égarement. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, « Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda » Je vous ai laissé sur une voie claire, des jours comme des nuits. « La yaziru anha » Il l'a halikun nede, laisse cette voix si ce n'est une personne vouée à l'égarement. Quand tu laisses la voix du prophète sallam, ce que tu es en train de faire, c'est l'égarement, même si c'est avec une bonne intention. La preuve, c'est les mouchirikoun. Ce vers quoi le prophète appelait, c'était quoi? C'était qu'ils abandonnent l'adoration de cette divinité qu'ils adoraient avec l'intention que cette divinité les rapproche d'Allah. La voix du prophète, c'était mettre fin à ces adorations et vouer l'adoration à Allah. Est-ce qu'ils ont suivi le prophète? Mais ils avaient une bonne intention, c'était que cette adoration les rapproche, l'adoration qu'ils voient à cette divinité, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, les rapproche d'Allah. Mais est-ce que ça a fait de leur acte une bonne œuvre du point de vue islamique?
On a compris ce point. Pas ici. Ça, c'est la preuve. Dalil al-Qurba. Ou Dalil al-Shafa, la preuve qu'ils adoraient les divinités, qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour bénéficier de l'intercession de ces derniers auprès d'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ.
Méditez bien sur les textes de la révélation, sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme elles sont pleines de science, pleines de quintessence. Allah dit, ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum, wa la yanfa'uhum. Ce qui ne pouvait leur nuire, ce qui ne pouvait en aucun cas leur nuit, voilà, il y a un faouhum, et qui ne pouvait leur être d'aucune utilité. Certaines personnes disent ce verset sans comprendre que, avant de dire ce qu'ils présentaient, Allah leur a d'abord fait le rad.
Ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne pouvait leur nuire en aucun cas, et ne pouvait les être d'aucune utilité. Ça, c'est ce qu'Allah dit. Maintenant, Allah dit ce qu'eux ils disent quand ils font cela. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, parce que Allah a déjà dit qu'ils ne leur seront d'aucune utilité. Donc comment ceux qui ont été qualifiés par Allah comme étant des choses qui ne peuvent être d'aucune utilité, qui ne peuvent ni nuire ni apporter le profit. Comment est-ce qu'on peut prétendre que ces choses-là sont des intercesseurs auprès d'Allah? Est-ce que lorsque quelqu'un peut intercéder en faveur, en notre faveur auprès d'Allah, ce n'est pas une utilité?
Ça veut dire que, écoutez bien, on avait dit que Hazabol Sekol Akbar, est-ce que le prophète n'intercédera pas pour nous le jour de la résurrection? Il va intercéder. Mais celui qui adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bénéficiera pas de son intercession parce que le prophète lui dit inutile en ce moment.
À partir du moment où il adore le prophète lui devient inutile. Parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah devient inutile à celui qui l'adore.
Les soumis n'ont pas compris ça. C'est pour ça que dans leur vers de poésie, où ils font les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois, comme la Bourda de Al-Busayri, quand tu lis ces vers de poésie, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah. Hein? Toi-même, tu te dis, tu t'es posé la question auprès de ceux-ci, quelle est la différence entre le prophète et Allah? Parce que tu te rends compte qu'ils ont attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam haraba hadhihi al-fikra. Wa qala la tatruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam. Walakin qulu Abdullah ne m'élevez pas au-dessus de mon degré, du degré qu'Allah m'a accordé. Et n'exagérez pas en ma personne, comme les chrétiens ont exagéré en la personne de Jésus, fils de Marie. Parce que ils disent que c'est le fils de Dieu. Et parfois, quand tu veux prêter l'oreille, ils disent même que c'est encore Dieu. Ils disent que c'est une seule personne en trois. C'est le Père, c'est le Fils, et c'est toujours lui, le Saint-Esprit. Et si tu demandes l'explication, on te dit que ça ne se comprend que spirituellement. En islam, on n'a pas ça. En islam, tout est clair. C'est la religion de la clarté. Le dogme est clair. Et il repose sur les textes clairs du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïf.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Il dit, dis à ceux-là qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah et prétendent que ces divinités-là sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Dis-leur, أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Prétendez-vous informer Allah sur ce qu'il ignore dans les cieux et sur la terre? Ya akhi, quand vous êtes né, est-ce que vous connaissiez ce qu'on appelle intercession? Qui vous a enseigné ce que l'intercession? C'est Allah. Et c'est maintenant vous qui allez établir les règles de l'intercession. C'est Allah qui a légiféré l'intercession. Et c'est lui qui a établi les règles de l'intercession. Et ce ne sont que ceux qui recevront l'autorisation d'intercéder en faveur de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura agréé. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a agréé que la tawhid. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, سبحانه وتعالى أما يشركون. Purité soit-il et qu'il soit élevé par rapport à tout ce qu'on lui attribue comme associé. Donc, on doit comprendre que la bonne intention ne transforme pas le shirk en bonne œuvre. Le shirk, c'est le shirk, quelle que soit l'intention de celui qui commet le shirk. À partir du moment où l'acte qu'il a posé, du point de vue islamique, c'est le shirk et là. Le jugement s'applique à l'acte et le jugement s'applique à l'acte. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième